Radio G. 101.5 FM.
I been another the block, seen a couple cops, and I moved to the other side. Been up with the Glock in my lap, cause I gotta be strapped. I ain't going out like that. Roll up, take a puff, then I cruise through the west side of the shot. And then I call up Pito, and we got three red bones that's ready to slide. So we hopped in the Bentley, dropped the top, they was envy. Sip a Patron Plenty, in a count heavy penny. Paper chasing like a motherfucker baller. She still tripping, but a nigga gon' call her. Got a bag, but I'm not gon' spoil her. Nigga mad, cause I'm fucking with a dollar. Got bun, and I got a lawyer.
Staying low key, 100,000 in the trunk, that be all jet. But I never let the money control me. So I seen the cop back in my thing, switching the lane, I'm all in control. Tell me, girl, do you wanna fuck? We can hit the crib, you already know. She gave a nod, grab a couple of beads, some loud in the fifth of control. We can really do things too strong, you wanna get down? The baby gon' hop on the spot.
I got the wonders up and I'm smoked out. My baby girl super thick and she poked out.
Damn, she was thick than a motherfucker, looking like a virgin. So I pull my tools out, kick the lid back, operating like a surgeon. Got a squirtin', now she scream my name, D-Lo. Come on, give it to me well. We can do it all night long, but you gotta go home. Again, I'ma wish you well.
Controversy, oh,
It's so odd to see, oh, it's so novelty. So we send love to the French, the excuse of my French. I'm so spent with this hard, hard currency. Currently running through my vein, most rancid. The ever active, non-play acted. Race carded abuse on my black skin. They don't wanna hear about poor me, so I lace the lines in what the scorn did. With a twisted looking philosophical view, here's what we gonna do with much regard to the poet with the license, the senses enlightened. Just the type to come and entice things with raw brute force. Drawn from the infinite, the raw brute force. Born of the infinite, infinitely, infinite free.
Only heaven can never save me. Send a mighty angel down before I end up in this ground. Only heaven can ever save me. Feels like hell out on these streets. I need you more than you need me. Only heaven can ever save me.
With that bandwidth, we cannot stand it. We're looking for the standing. We're upstanding, but here with more standards. Them innovations they sent from the godly. Dance and fill the jazz with my bad bill. And just because he works with the Holy Ghost, it really don't mean you won't put a hole in those. Tough talk don't mean a heap of shit, but I've seen a tough time and seen some mean shit now. Nowadays I'm keen to work the angles. The devil works from each and every angle. And as the anger sets, it entangles. Bearing in mind that we convert the energy, replenish the chi and move more freely. Rejoicing in the voice, rejoicing in the freedom. Rejoicing in the voice, rejoicing in the freedom.
Just wanna tell you. 101.5 FM.
Radio G. www.radio-g.fr.
Aujourd'hui, l'émission On n'a qu'à inventer se réinvente un petit peu. On n'a qu'à se réinventer. Voilà quel pourrait être son titre pour ce numéro 18. Vous le savez peut-être, l'émission ambitionne de dresser le portrait de créatives et créatifs des temps modernes et invite donc à son micro des passionnés, passionnants à partager pendant 40 minutes leur parcours, leurs inspirations, leur processus créatif parmi tant d'autres choses. Et bien aujourd'hui, nous faisons les choses justement un petit peu différemment. Aujourd'hui, nous dressons le portrait d'un drôle de projet. Un projet qui a réuni pas moins de 250 personnes, selon mes estimations. 250 personnes impliquées à différents niveaux pour mener un implacable processus créatif à son terme, à savoir la création sur scène d'un spectacle unique en tout point. Au sens propre, d'abord, puisqu'il n'y aura qu'une seule et unique représentation de cet objet théâtral extraordinaire, mais unique, surtout, pour l'attente et l'enthousiasme qu'il suscite pour toutes les personnes impliquées dans sa conception. C'est ce que nous allons vous raconter au cours des prochaines 40 minutes. Cet incroyable enthousiasme que ce projet a su générer au sein des équipes du Quai, Centre Dramatique National à Angers, mais aussi au sein d'une partie de la population angevine. Ce n'est pas tous les jours, en effet, que le peuple, au sens noble du terme, peut choisir de façon démocratique le texte qu'il souhaite voir créé, mis en scène et interprété dans un lieu aussi prestigieux. Je parle de la scène du Théâtre 900 au Quai à Angers. Ce projet, il porte un nom. Le DESC, le département d'écriture pour la scène contemporaine. Il a pour objectif, ce desk, et je cite, de mettre en œuvre et en lumière des textes dramatiques inédits, activant tous les possibles de la machinerie théâtrale. Et quelle machinerie ! D'abord, le Quai a proposé à 100 lecteurs et lectrices, angevins et angevines, de choisir ensemble un texte proposé par un auteur contemporain, ou une autrice contemporaine, bien sûr, texte qui n'a jamais été mis en scène auparavant. Appelons ces lecteurs et lectrices le jury populaire. Et ce jury populaire a lu, en différentes étapes, une centaine de textes envoyés par des auteurs et autrices francophones. C'est ce qu'on appelle un appel à texte. Le texte élu a été confié à un metteur en scène pour une représentation unique. Donc, une représentation qui, après de multiples reports, a eu lieu le samedi 5 juin 2021 sur la scène du T900. Un peu plus tôt, j'ai dit « nous allons vous raconter » car aujourd'hui, je vais laisser ma place à celles et ceux qui ont accepté de partager avec vous, chers auditeurs et auditrices, ce processus créatif si particulier. Chacun et chacune à sa manière, bien sûr, et surtout, chacun et chacune de sa place. Voici donc quelques-uns des ouvriers et quelques-unes des ouvrières du processus DESC, processus initié par Thomas Joly, directeur du Quai, au printemps 2020. Je vous les présente en quelques mots, ces ouvriers et ces ouvrières. Tout au long de cette émission spéciale DESC, vous entendrez, à tour de rôle, les voix de Jenny Dodge, responsable du projet DESC au sein du Quai, de Damien Gabriac, auteur et comédien de la troupe permanente du Quai et responsable artistique du DESC, de Béatrice Bienville, autrice du texte lauréat représenté sur scène le samedi 5 juin 2021 et édité par la maison d'édition du Quai, de Laurent Bretum, metteur en scène d'origine vendéenne, qui a relevé le défi de monter en très peu de temps un spectacle à partir d'un texte choisi par d'autres, en l'occurrence le jury populaire précédemment cité. Vous entendrez également la voix de Damien Avis, comédien de la troupe permanente du Quai, qui joue dans le spectacle. Et enfin, les voix de Jacqueline et Nicolas, deux représentants du fameux jury populaire, qui ont accepté de partager leur vécu du projet. Ça y est, nous sommes à la fin de cette introduction, qui est, sans aucun doute, la plus longue jamais écrite dans toute la jeune histoire d'On n'a qu'à inventer. Mais il me semblait important de bien planter le décor pour mettre en lumière ce projet tentaculaire. Vous comprendrez mieux, peut-être, ce jeu de mots au cours de l'émission. Alors installez-vous aussi confortablement que vous le permet ce début de dimanche après-midi. Vous êtes sur Radio G. On n'a qu'à inventer, saison 1, épisode 18. C'est parti. Et nous commençons cette émission spéciale desk avec la voix de ces deux responsables. D'abord, celle de Jenny Dodge, elle est responsable du développement de projets pour le Quai, et celle de Damien Gabriac ensuite, il est lui le responsable artistique du desk. Il nous parle des origines de ce département d'écriture pour la scène contemporaine.
Et bonjour, je suis Jenny Dodge, je suis responsable de développement de projets pour le Quai, Centre Dramatique National des Pays de la Loire, Angers. Et je suis notamment responsable du DESC, département des écritures pour la scène contemporaine. Je ne suis pas toute seule, bien sûr. Et il y a notamment mon acolyte Damien Gabriac, qui est responsable artistique du DESC, et ma chère Laurence Bedouet, qui est assistante et bien plus, qui est aussi la voix VOX du DESC. Voilà. Et bien sûr, tout le reste de l'équipe, parce que le DESC, c'est un projet du Quai Centre Dramatique National. Donc, on est tous les trois, le bureau, on va dire, du DESC, et membres du bureau. Bureau du bureau, du coup, parce qu'il y a évidemment ce petit jeu de mots pour DESC. Mais toute l'équipe du Quai Centre Dramatique National participe de, forcément à son endroit, à ce projet. Parce que c'est un projet porté assez haut, on va dire, par la maison. Par le Centre Dramatique National. D'abord parce que c'est un projet avec lequel Thomas Joly et Damien Gabriac sont venus dans leur valise, mais qu'il fallait ancrer sur un territoire et dans une maison. Nous, on avait des habitudes d'édition, d'écriture. On avait déjà un lien, forcément, en tant que théâtre, il faut espérer, on l'espère, on le souhaite, un lien avec les écritures contemporaines, notamment en communication, le service communication, avec bien sûr ce qu'on écrit dans les brochures, dans les supports de communication, les documents d'information. Mais on avait aussi jusqu'à présent une revue qui s'appelait Divague. L'idée, et c'était une revue qui était liée au précédent directeur, Frédéric Bellier-Garcia, à son projet. Là, on change de direction. Donc l'idée, c'est de travailler avec celui-ci, bien sûr, et de rendre vivant, concret, palpable, tangible, toutes ces idées qu'il a, lui, dans son projet. Et donc, son idée, c'était que cette maison soit une maison non seulement génératrice de création et de spectacle, comme on le sait, qui est notre mission numéro 1, on va dire, mais aussi génératrice de texte, qu'on soit une usine à mots. C'est un peu son expression, je me souviens. Et donc, pour revenir là-dessus, nous, on avait déjà un rapport, bien sûr, à l'écriture et au littéraire, on va dire, forcément, vu qu'on est des gens de théâtre et de communication et des communicants, donc à minima. Et puis avec cette revue, avec cette histoire de... Voilà, cette expérience de revue. Et là, l'idée, c'était de prendre une autre direction. C'était de préserver cette idée d'édition, mais pour des textes dédiés à la scène contemporaine, voués à faits pour être joués. D'être une maison d'édition de textes de théâtre, tout simplement. Et également, non seulement d'édition, mais bien sûr de les jouer, de les produire.
Je suis Damien Gabriac, acteur et auteur de La Troupe du Quai ou La Compagnie du Quai. La direction de Thomas Joly. J'ai commencé à Rennes avec Thomas, enfin voilà, c'est un long compagnonnage avec lui. Et on s'est dit, ça fait plusieurs années qu'on se dit, enfin lui voulait prendre la direction de théâtre et qu'il se disait dans les théâtres, il faut qu'il y ait un département consacré à l'écriture contemporaine. Donc voilà, et on rigolait, on s'amusait à trouver des noms à cette chose, et le desk, ça ne nous avait plus. On n'avait même pas le département d'écriture pour la scène contemporaine. Mais desk, bureau, enfin un truc comme ça où les cerveaux ils sont en fusion et ça écrit des pièces. Et du coup, on a trouvé département d'écriture pour la scène contemporaine. En plus, la scène contemporaine plaisait plus à Thomas. C'était plus ouvert qu'écriture contemporaine ou théâtre contemporain. C'est pour la scène contemporaine. Enfin voilà, il peut y avoir des concerts, des ballets, enfin, c'est l'écriture en général. Et du coup, on est arrivé ici et on a voulu monter ce département. Voilà, on est parti sur deux axes qui sont la mise en œuvre et la mise en lumière. La mise en œuvre, ce serait des résidences qui se passent ici, de textes, et du coup qui aboutiraient à, voilà, sans contrainte de production. C'est-à-dire souvent les pauvres auteurs et autrices, on leur dit il faut deux personnages, il faut un décor et tout. Et nous, on veut pousser à l'écriture sans ces contraintes-là, de personnages, de décors, de tout ça. On aime bien les histoires aussi, les fables haletantes. Et la mise en lumière, du coup, on s'est dit, on va faire des appels à texte. Et donc ce projet-là de Desk 1, là, c'est un appel à texte avec la thématique idole. Et donc, sur la thématique idole, on a lancé ça dans la France entière, avec les réseaux d'ici. Même, je crois que ça a été jusqu'à l'étranger, parce qu'on a reçu des pièces du Burkina Faso et... Et donc voilà, on a reçu, pour être tout à fait honnête, 166 textes. Et j'ai fait il y avait des quelques contraintes. Il fallait qu'il y ait une majorité de dialogue, il fallait qu'il y ait, que ça respecte la thématique idole. Donc du coup, j'ai pris deux semaines sur un canapé là-haut et je les ai tous pas lus en entier, mais vraiment parcourus. Des fois, on a reçu deux pages. Donc voilà.
Le desk, c'est pas mal de choses. C'est. Donc d'abord, il fallait, et c'est là où j'interviens, mais encore une fois avec tous mes camarades, il fallait d'abord ancrer ce projet sur le territoire. Donc pour ça, il y a eu une idée assez formidable qui est venue de Damien Gabriac pendant le premier confinement, je ne sais pas s'il en a parlé, qui était de dire on ne peut pas lancer un appel à texte à plusieurs auteurs, parce qu'on espère quand on lance un appel à texte que plusieurs auteurs vont répondre, il n'y a pas de nombre limité. Et d'envisager un petit comité de lecture classique avec des soi-disant spécialistes qui seraient nous. Mais d'être vraiment dans ce que, finalement, ce qui va avec le théâtre de Thomas Joly, un théâtre populaire, donc d'avoir un jury populaire constitué d'une centaine de lectrices et lecteurs. Et que ce soit des angevins, de faire de cette maison une maison citoyenne, une maison où les angevins, les habitants, et les ménis ligériens même, pour aller plus loin que les angevins, ont un vrai rôle à jouer. Ils ne sont pas seulement spectateurs. Nous, on leur donne, voilà, on leur donne des spectacles et ils y assistent et ils le prennent. Mais non, l'idée de Thomas, c'est que dans cette maison, les spectateurs, les publics, soient vraiment actrices et acteurs du projet, prennent part concrètement à celui-ci. Donc l'idée de ce jury populaire est née de manière assez évidente comme ça, enfin, quand, voilà, même si ça a été compliqué quand il nous l'a, je me souviens quand il l'a formulé, parce que tout était déjà prêt en termes de communication, parce qu'ici c'est une grosse maison, on est plus de 50 salariés, donc il y a service communication, service relations publiques, service technique, service production, et c'est une chaîne. Voilà, si on bouge un maillon, tous les autres maillons ça a une incidence, une influence sur tous les autres maillons. Et au dernier moment, il dit non, faut pas faire ce comité de lecture aussi classique comme tout le monde le fait. Et c'était une idée, je pense, c'était la bonne idée. Et encore une fois, qui résonne profondément avec le projet de Thomas, de faire de cette maison une maison ouverte, une maison des publics. L'idée chez Thomas, pour le Quai Sandra Mathilde National, c'est en gros, c'est très simple, c'est deux axes. C'est très simple dans l'idée générale, c'est une maison des artistes, une maison des publics, deux axes. Et mais que ça ait vraiment du sens de dire ça, parce qu'on pourrait se dire bah oui évidemment c'est toujours le cas tous les théâtres, mais là c'est vraiment que concrètement ça soit le cas. Et le desk, je trouve, cristallise un peu, très représentatif de cette idée là.
Habituellement, et on était parti là-dessus, de faire un comité de lecture interne à la maison, et puis on s'est dit non, c'est pas bien, tout le monde fait ça. Et du coup, on s'est dit, bah non, on va prendre des citoyens d'Angers, enfin, et du département. Et donc, on a ouvert ça en plein Covid, premier confinement 2020. Et c'est monté à, oui, on a reçu 120, je pense qu'on a, et puis on en a pris 105 ou 6, un truc comme ça. Et donc voilà, on a regardé, et puis après, il fallait faire un barème pour que les gens puissent, enfin, il fallait faire les groupes, faire un algorithme pour faire le nombre de groupes, hein. Un barème, les impressions, enfin c'est une usine à gaz en fait.
Voilà, normalement vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre la suite du processus de ce sacré projet desk. Mais juste au cas où, je récapitule les épisodes précédents, l'entrée en scène des lecteurs et lectrices. L'équipe du Quai a fait un appel à texte auprès d'auteurs contemporains et s'est retrouvée après un premier écrémage avec 100 textes à proposer à ses lecteurs et lectrices. Ces lecteurs et lectrices qui sont des angevins et des angevines de tous âges, de tout milieu, de toute provenance socioculturelle et qui sont eux au nombre de 100 également, j'arrondis. Et nous sommes maintenant au tout début de l'été 2020, en juillet, et le jury populaire a été convié à une première rencontre pendant laquelle les règles de ce grand jeu sont exposées. Chacun, chacune s'engage à lire quelques-uns des textes sélectionnés par le bureau du desk, à les évaluer selon des critères très précis et à communiquer avant la fin du mois d'août suivant ses notes et impressions. Puis un second tour sera organisé quelques semaines plus tard avec les quelques textes ayant reçu les meilleures notes. Chacun, chacune repartira avec les textes demi-finalistes donc avant de se retrouver une dernière fois au tout début du mois d'octobre 2020 pour élire le grand gagnant après débat. J'ai demandé à Damien Gabriac et Jenny Dodge quels ont été pour eux les grands moments de cette aventure collective.
Les grands moments, ben c'est le premier rendez-vous là où on a accueilli les lecteurs avec la photo, où on explique bien voilà comment. Enfin, ouais, c'est pas évident de lire du théâtre. Même moi aujourd'hui, de lire du théâtre, c'est moins simple que de lire un roman ou un essai. Enfin, c'est une lecture. Faut avoir de l'imagination, c'est pas simple. Il faut de l'imaginer, c'est-à-dire que ben, t'as pas tout quoi. T'as juste les mots des personnages, t'as pas les décors, t'as pas le. Et donc voilà, de faire une mini formation en une demi-heure, les gens plutôt enthousiastes à la fin. Ce qui était beau aussi, c'était les vacances. C'est moi qui ai reçu toutes les notes, les fiches de lecture et tout, de mettre tout ça sur un tableau Excel et de voir là les textes qui montent. À chaque fois, je mettais à jour les notes que je recevais pour voir les 5 premiers, quoi. On savait pas combien on allait prendre de finalistes. Et là, comme il y avait un écart de 10 points entre le 5e et le 6e, on s'est dit on en prend 5. Mais on s'était dit ça peut être 3, ça peut être 7, maximum 8. Quoi. Mais on s'était dit bon, les 5 premiers ils se détachent vraiment. Et donc voilà, il y a eu le fameux speed dating, là, le moment où les groupes de gens qui avaient lu les mêmes textes se retrouvaient entre eux. Ça c'était plutôt sympa, je trouve. Et débattaient de. Ou pas débatter, discuter de ce qu'ils avaient lu et tout ça, c'était vraiment chouette. Les autres moments sympas, bah le grand débat là, du deuxième tour aussi, avec les textes finalistes, ça c'était vraiment bien. Enfin, j'étais dans les. Et puis ça c'était super parce que toute la maison aussi, qui fait pas forcément partie du desk, est venue faire le médiateur de chaque groupe. Donc il y a vraiment un truc de. Tout le théâtre du début de l'écriture jusqu'à la production là, qui sera le 5 juin, la mise en scène, enfin, il y a vraiment tout. Et il y a tout un théâtre et bien sûr le public. C'est un truc qui rassemble vraiment tout le monde. Et moi, j'adore ce projet-là.
Un rendez-vous qui m'a beaucoup plu, c'est un des derniers rendez-vous avec le BDL, comme on l'appelle, nous, comme le Bureau des Légendes, le Bureau des Lecteurs. Je crois que c'était début octobre, qui est le rendez-vous final, en fait, où on propose des débats entre les lecteurs. Et autour de ces 5 textes finalistes, l'idée, c'est de débattre et, suite à ces débats, de voter. Et que chacun vote de façon anonyme. Et d'ailleurs, donc, les lecteurs eux-mêmes ne savent pas quel est le texte qui sera joué le 5 juin. Donc, c'est un vote comme voilà, dans des urnes. Et en fait, ce que j'ai trouvé super beau dans cette journée, c'est que bah, d'abord, il y avait beaucoup de personnes de l'équipe, des membres de l'équipe, à savoir tout ce qu'on appelle le service des relations publiques, qui ont chacun pris en charge un groupe de lecteurs pour animer le débat. Et ce qui était beau, c'est qu'il y avait des lecteurs qui avaient, avant d'arriver, des avis, tout simplement, des avis même tranchés. Et je crois que ça leur a, de confronter leur avis à d'autres lecteurs et animer tout ça par mes collègues relations publiques a pu parfois faire bouger un peu leur avis. Donc comme quoi le débat et la circulation de la pensée, parce que dans cette maison aussi on espère que ça soit porté haut et fort comme projet, la circulation de la pensée, et comme quoi ça c'est nécessaire et ça peut faire changer des positions ou du moins les faire évoluer ou les... Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Puis le fait qu'il y ait toute l'équipe, enfin qu'on soit nombreux en tout cas, parce qu'il n'y avait pas toute l'équipe bien sûr, mais il y avait quand même une partie de l'équipe. Et comment un projet comme celui-ci va faire travailler toute une maison, que ça soit la production, la technique pour le spectacle, parce que c'est pas rien la mise en scène qu'a prévu Laurent Brossom, en termes d'effets, de machinerie. Puis c'est l'idée du desk d'ailleurs, hein, c'est de, voilà, de proposer une épopée. Que ça, que les relations publiques, le service des relations publiques travaille énormément au recrutement aussi des lecteurs, que le jury populaire soit le plus hétérogène possible, donc d'aller recruter, que ça soit pas que des profs de français qui viennent, même si on les adore et c'est formidable, mais c'est bien de voilà d'envisager le renouvellement, ce qu'on appelle chez nous le renouvellement du public, le service communication, notamment Solange Abasio avec son graphisme et sa conception de l'édition. Voilà, c'est ça qui me touche, beaucoup. Et encore, là, au moment où je vous parle, on n'a pas vécu le 5 juin, mais je pense que ça va être un grand moment. Enfin, j'espère.
Avant de continuer ensemble l'évocation et l'exploration de cet incroyable processus créatif qu'est le desk, je vous propose une petite pause musicale dans ce numéro 18 d'On n'a qu'à inventer. Une pause musicale comme un avant-goût de vos vacances d'été à venir, peut-être, surtout si vous aussi, vous préférez L'amour en mer. Un titre de circonstance, puisqu'il fait partie de la bande originale du spectacle présenté au public le 5 juin 2021 sur la scène du Quai. Radio G, On n'a qu'à inventer, Philippe Laville, à tout de suite.
Elle danse, balance, sur le pont rouillé d'un cargo. Elle aime le vent et tout ce qui porte un drapeau. Elle sait le nom des petits et des grands bateaux. Elle te dit non si tu ne l'emmènes pas sur l'eau. Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de tempo. Elle rêve d'un long voyage sur un paquebot. Elle préfère l'amour en mer, elle se laisse aller sur les flots. La marine en est fière, capitaine du mot. Elle danse, balance, entre Grenade et Dominique. Elle pense vacances devant les vagues du Pacifique. Elle rêve corsaire entre Cayenne et Bornéo. Elle crie galère aussitôt qu'elle n'est plus sur l'eau. Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de tempo. Elle rêve d'un long voyage sur un paquebot. Elle préfère l'amour en mer, elle se laisse aller sur les flots. La marine en est fière, capitaine du mot. À bord, tribord, elle fait du sport. Sur le pont rouillé d'un cargo, elle perd le nord dès qu'elle voit passer un radeau. Elle sait le nom des petits et des grands bateaux. Elle te dit non si tu ne l'emmènes pas sur l'eau. Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de tempo. laisse aller sur les flots. La marine en est fière, capitaine du mot. Elle préfère l'amour en mer, elle se laisse aller sur les flots. La marine en est fière, capitaine du mot.
On a qu'à inventer le dimanche sur Radio G.
De retour dans l'émission 18 d'On a qu'à inventer, une émission consacrée à la toute première édition du DESC, le département d'écriture pour la scène contemporaine, un projet titanesque initié en 2020 par Thomas Joly, directeur du Centre dramatique national Le Quai à Angers, et porté avec passion, rigueur et enthousiasme communicatif par ses équipes. Le DESC, outre les équipes du Quai, c'est une centaine d'auteurs et d'autrices qui ont tenté leur chance en espérant voir leur texte de théâtre original élu par un jury populaire de 100 Angevins-Angevines, tous et toutes bénévolement engagés dans un exigeant processus de sélection, processus qui a trouvé son terme le samedi 5 juin 2021, hier donc, au sein même du Quai. Une représentation exceptionnelle de l'adaptation du texte élu a été proposée aux spectateurs et spectatrices devant son autrice, autrice qui a reçu par la même occasion une distinction honorifique et le tout premier exemplaire de son texte édité par les soins du Quai et désormais disponible à l'achat pour toute personne curieuse de découvrir ces mots lauréats. Mais revenons un peu en arrière. Nous sommes en octobre 2020 et ça y est, le jury populaire a rendu son verdict. Un texte parmi la centaine en concours a été élu dans le plus grand secret. Car chaque membre du jury, après débats et échanges passionnés, a voté en son âme et conscience pour le texte qui méritait le plus, à ses yeux en tout cas, d'être représenté sur la scène du Quai et édité pour pouvoir être lu par le plus grand nombre. Et chaque membre du jury est reparti, le cœur rempli d'espoir, sûrement, de voir son texte chouchou ainsi vainqueur. Car seules les équipes du Quai ont su ce soir-là qui avait gagné. Une autrice, donc. Et c'est Damien Gabriac qui s'est chargé de la prévenir immédiatement de sa victoire.
Le moment le plus émouvant... Bah, c'est quand j'ai appelé Béatrice. Quand je l'ai appelée et que je lui ai dit qu'elle avait gagné. Et que. Alors peut-être c'est moi, c'était au téléphone, alors peut-être je me faisais un film, elle était malade, mais j'avais l'impression qu'elle pleurait. Mais je crois qu'elle pleurait et qu'en plus elle était malade. Et elle disait rien, elle faisait oui. Elle dit mais bah, bravo et tout. Je lui ai expliqué le. Enfin, elle avait bien lu, quand les gens envoient un texte, ils ont lu le truc. Mais... Et donc voilà, je lui ai demandé si elle était disponible ce jour-là.
Oui. Oui, merci. Oui.
Donc ça, c'était très émouvant. Puis j'ai eu le privilège de l'appeler en premier, donc je lui ai annoncé la nouvelle. Parce que à la base, c'est pour les autrices et les auteurs, même si c'est pour le public et pour le théâtre, mais... enfin le DESC. Et voilà. Sinon, il y a plein d'autres moments émouvants. S'il y en a un, c'est celui-là.
Alors, je m'appelle Béatrice Blainville et je suis autrice et metteuse en scène de théâtre d'origine guadeloupéenne. Et je suis l'autrice du texte La véritable histoire de la Gorgone Méduse qui a été sélectionnée cette année par le DESC. Alors, je crois que j'ai vu passer l'appel par les réseaux un peu qui font circuler ce genre d'informations sur le théâtre, par un appel à projet tout simplement. J'ai eu un appel juste avant le deuxième confinement, je crois, en novembre, de l'équipe du DESC pour annoncer que c'était Méduse qui avait été sélectionnée. Et c'était vraiment une très très belle nouvelle, surtout avec toutes les annulations et tout ce qui se passe en ce moment dans le théâtre. Donc j'étais très très heureuse. Et ensuite, on a été en lien un peu pendant toute l'année pour parler de l'édition et de l'organisation de la journée de lecture. J'étais vraiment hyper heureuse. Et ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir et surtout oui, c'était vraiment je crois que c'était à l'automne et on venait vraiment de passer une année avec le confinement, les annulations, etc. Et vraiment j'étais hyper heureuse d'avoir reçu cette nouvelle et surtout pour ce texte qui me tient beaucoup à cœur. Alors c'est un texte que j'ai écrit à partir de la mythologie grecque et notamment à partir de l'histoire de Méduse. Et c'est notamment un texte d'Italo Calvino qu'on m'avait fait découvrir pendant mes études, qui parlait du regard de Méduse comme du regard du réel qui nous pétrifie, et qui parlait de la fiction comme d'un moyen de s'emparer de ce réel et d'en parler pour pouvoir ne pas rester sidéré et pouvoir agir. Et je sais que quand j'avais du coup lu le texte de la mythologie, j'avais été frappée par l'injustice du mythe, et à la fois par tout ce que ça véhiculait sur le rapport qu'on a aux victimes de viol aujourd'hui et aux coupables et à l'impunité des coupables. Et du coup, j'ai décidé de m'emparer de ce mythe-là et de le réécrire en prenant parti pour Méduse, en fait. Moi, c'est la première fois qu'un de mes livres va être édité et je pense pour un auteur d'être édité, c'est vraiment une des plus belles nouvelles qui soit. je suis vraiment très très contente. Je suis très très émue aussi de bientôt avoir l'objet dans les mains. Et c'est vraiment une nouvelle magnifique chance pour quelqu'un de pouvoir avoir ce mot édité en objet comme ça à tenir, c'est super. Et sinon, moi, j'avoue que ce qui me marque le plus, c'est les premières lectures avec des comédiens et quand on voit le texte qui est dit et qui est lu à l'oral et qu'on l'entend, c'est toujours très très fort. Et du coup, j'ai très très hâte de voir ce qu'en a fait Laurent Brotom et quel choix il a fait et comment ça s'est passé pour les comédiens. En ce moment, je travaille d'une part sur un documentaire pour une amie sur la mémoire des personnes âgées en Guadeloupe. Et donc on part là-bas, on filme des personnes de la génération de nos grands-parents, qu'on interroge sur leur vie et sur tout ça. Et sinon, moi j'écris une pièce un peu sur le vaudou haïtien et sur son héritage dans nos générations.
Maintenant, le texte de la véritable histoire de la Gorgone Méduse ou Comment tuer un visage choisi, il ne restait plus qu'à faire entrer dans ce joyeux processus, pour ne pas dire bazar créatif, un metteur en scène audacieux et joueur, puisque tributaire du bon vouloir d'une centaine de lecteurs et lectrices qui s'étaient permis de choisir à sa place le texte qu'il devait mettre en scène en un temps record. Et c'était déjà prévu comme ça avant même que le monde de la culture soit sévèrement confiné et empêché de l'automne 2020 jusqu'au 19 mai dernier, date de réouverture de nos chers lieux culturels. Ce metteur en scène, c'est Laurent Brotom. Il nous raconte sa version à lui du projet d'Esque avant d'être rejoint par Damien Avis, comédien de la troupe permanente du Quai et donc présent dans cette mise en scène particulière. Lui aussi nous parlera de son expérience et de son immersion au sein de ce défi atypique et inclassable.
Bonjour, je m'appelle Laurent Brotom, je suis metteur en scène. Je dirige une compagnie conventionnée en Pays de la Loire qui s'appelle Le Menteur Volontaire. Quand Thomas Joly et Alexandre Dain m'ont proposé cette aventure du desk, j'ai tout de suite dit oui parce que je trouve ce projet insensé et magnifique. En France, où beaucoup de textes sont choisis par des comités de lecture, de personnes professionnelles qui sélectionnent entre eux et entre elles des gens du métier à visage découvert, cette idée de créer un bureau d'électrices, un bureau d'électeurs, c'est-à-dire que cette idée que ce soit le peuple qui décide, je trouve que c'est une idée magnifiquement démocratique et très nouvelle. Ce projet d'ESC, il y avait forcément une angoisse pour moi, c'était quel allait être le texte. En octobre dernier, quand le texte lauréat a été choisi, je l'ai reçu, c'était un vendredi soir, et je l'ai relu 3 fois pendant la nuit. Et j'étais hyper heureux parce que la première chose que je me suis dite, c'est que c'est une pièce sur laquelle j'aurais pu craquer pour vouloir la monter en dehors du projet d'ESC. Et ça, c'était important pour moi parce que j'avais forcément la peur de me dire « si jamais je déteste ce texte et si jamais ce texte ne m'inspire pas ». Or, il se trouve que ce texte m'a inspiré immédiatement. On a vraiment là l'écriture d'une future très grande autrice pour moi parce qu'elle crée un univers épique, un univers baroque, un univers à station, comme diraient les dramaturges, sur une œuvre qui est nécessaire dans ce qu'elle charrie, dans ce qu'elle raconte aussi de qu'est-ce qu'être une femme dans cette société très machiste et très patriarcale. Et puis, j'ai commencé à rêver à ce que ce projet puisse exister en 2 semaines, dans une chose qui soit vraiment une lecture améliorée. Puis dans un deuxième temps, on s'est dit, mais ça va même pas être une lecture, on va en faire une mise en scène. On va travailler avec les élèves de la classe COP, on va travailler avec Clémence Boisset, qui est l'actrice principale du projet, qui ne vient ni de la classe COP, ni de la troupe permanente, puisqu'on travaille avec la troupe permanente. Et puis on va travailler avec les équipes techniques d'Angers, qui sont des équipes absolument formidables, qui se sont complètement emparées du projet pour en faire un spectacle, vraiment, du début à la fin. Alors, dans des contraintes assez dingues, parce que on est passé par toutes les sueurs, par toutes les angoisses. D'abord, ça devait être en novembre, après on nous a dit que c'était en mars. Après, quand on a répété au mois de mars, en 2 semaines, c'est très très court. Mais en 2 semaines, où on doit arrêter les répétitions à 17h40, parce qu'il y a un couvre-feu à 18h, c'est-à-dire qu'on perdait toutes les soirées. Donc clairement, c'est comme si on perdait l'équivalent de 3 à 4 jours de répétition. Mais on a réussi à tenir le challenge. On était quasiment prêt pour le mois de mars. Et puis, on a encore une fois été contraint par cette crise sanitaire, et on s'est dit qu'on allait peut-être en faire un film, et puis après on s'est dit peut-être en faire une pièce radiophonique, puis après on est passé par l'étape de se dire il va falloir le jouer en plein air. Donc j'ai réécrit et re-réécrit l'écriture de mise en scène au moins 4 fois. C'est des dizaines, des centaines d'heures de travail, et puis finalement on a cette joie d'avoir pu la présenter là début juin devant un vrai public. Donc ça correspond à un peu plus de 2 semaines de travail, puisqu'on a eu ces 5 jours en plus en juin, mais avec des journées au mois de mars, comme je vous l'ai dit, on arrêtait à 18h40. On est face à un processus de création. J'ai demandé à toutes les comédiennes, tous les comédiens d'arriver texte su, ou d'une manière opératique, pour avoir eu la chance de déjà mettre en scène à l'opéra. J'avais préparé avec ma collaboratrice artistique Clémence Labattue. Nous avions préparé une écriture de mise en scène très précise. On savait exactement ce qu'on voulait faire, où on voulait aller, comment on voulait le faire. On était dans un principe de nécessité-vertu. Alors nécessité-vertu, c'est un grand mot dans le métier qui a été employé par Antoine Vitesse, ancien secrétaire de la Comédie Française et ancien directeur du Conservatoire de Paris dans les années 80, qui disait la nécessité-vertu, c'est faut faire avec les moyens du bord. On a fait de la récup, on a récupéré des costumes qui existaient déjà au quai, on a récupéré des bouts de décor, on a acheté deux bouts de peinture pour peindre des choses, pour rendre signifiant certaines choses qui ne l'étaient pas. Et en fait, on a réussi... dans cette nécessité-vertu, dans cette économie-là, dans cette à faire un spectacle qui et on dit spectacle, ça peut être un peu fou, mais parce que c'est vraiment un geste artistique, une performance, un spectacle qui soit le plus fidèle possible à la folie de l'écriture de l'autrice, à la démesure de l'écriture de l'autrice, qui pose des questions de mise en scène et des contraintes de mise en scène terribles, surtout dans l'articulation entre le passé et le présent, dans ce qui doit être monté, dans ce qui ne doit pas être montré. Et ça a été un bonheur extraordinaire. On a bossé comme des fous. On était épuisés, mais vraiment, mais on était épuisés de bonheur. On était dans la joie, on était dans la poésie. Et ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans la force d'un Centre Dramatique National, qui est vraiment une maison de création, qui est la maison de toutes et de tous, qui est une maison de la citoyenneté, une maison des différences et une maison de l'acceptation. Et ce projet-là est maintenant là. Et on souhaite que ce texte vive magnifiquement à travers tout l'Hexagone.
Donc, je m'appelle Damien Avis, j'ai 32 ans et je suis comédien et je fais partie de la troupe du Quai, nouvellement arrivée à Angers. Notamment pour participer à des projets comme celui du Desk. Ça fait partie des choses qui ont séduite et qui ont donné envie de... vraiment donné envie de participer aussi à ce grand projet que propose Thomas Joly, quoi. L'idée séduisante d'être lancé sur un texte que tu n'as pas choisi, que tu ne connais pas, avec un metteur en scène que tu ne connais pas, c'est absolument génial. L'aspect défi, pour moi, il est... parce que ça peut se faire que dans la joie à un moment donné. Il y a quelque chose de trop urgent, de trop grand, de trop, tu vois. Et là, je trouve que c'est hyper agréable, notamment par rapport à la maison aussi, par rapport à cette période qu'on vient de traverser, qui est quand même anti-créative au possible, morose, quoi. Là, on a quand même retrouvé un souffle, en fait, une joie, et puis une dynamique d'équipe aussi. Tant sur l'équipe d'acteurs qui, pour le coup, en termes de troupe, se connaissaient déjà, mais finalement n'avaient pas eu trop l'occasion non plus de s'éprouver dans les mains d'un autre metteur en scène. Et ça, c'était aussi assez intéressant de se redécouvrir dans une autre méthode de travail aussi. Ça, c'est très plaisant de rencontrer aussi cette troupe de jeunes gens, effectivement. Jeunes gens qu'ils sont plus tôt que ça, d'ailleurs, mais du moins de comédiens plus jeunes. Et c'est super parce qu'on partage avec eux un vrai parcours sur toute la saison. On a tout fait là pour le coup, tu vois. On est quand même dans un texte qu'on connaît pas, un metteur en scène qu'on rencontre, des comédiens qu'on connaît pas. C'est super. Et puis du coup, on a retrouvé cette joie, quoi, je trouve, d'aller un matin tous ensemble dans le dépôt costume du quai et puis y aller à foison en commençant à rêver à des silhouettes. Parce que Laurent nous a mis à contribution forcément là-dessus, c'est ça qui est beau aussi dans cette urgence-là, c'est qu'il y a quand même une part de création, ou du moins de... Bien sûr, lui, il arrive avec tout un travail préalable, mais ça fait partie de sa méthode aussi que de demander aux comédiens, notamment pour le silhouettage, tout le côté costume, que la rêverie que tu peux avoir avec le texte quand tu le découvres, que tu aies les moyens vraiment de lui proposer des pistes sur comment tu vois percer, comment tu imagines Méduse, comment tu... Et ce, du plus petit rôle au plus important, du moins aux plus grandes figures, avec celle que tu as plus de facilité à rêver, quoi. Et ça, c'est très chouette. Et puis, y aller tous en groupe, revenir avec les camions pleins de costumes qu'on exhume ou des espèces de trucs probable, où tu te dis mais ça servait sur quoi ce truc, c'est extrêmement agréable. Et puis de prendre tout ce qu'on avait sous la main, quoi. Ça, c'est super agréable. il y a eu un truc de... On a un peu remué le grenier, et puis on voit ce qu'on a sous la main, et avec ce qu'on a sous la main, on essaye de faire, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le budget non plus, ça coûterait trop d'argent que de créer une scénographie unique pour un tel spectacle. Et dans cette joie, et dans un couvre-feu contraignant, compliqué, on a quand même réussi à sortir en 15 jours plus de 2h35 de spectacle, quoi.
Enfin, je vous invite à découvrir la voix de deux membres du fameux jury populaire du DESC. Je vous présente Jacqueline et Nicolas.